Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. Je suis ravie d'accueillir sur l'épisode numéro 12 de La tête en mer, Constant, entrepreneur et jardinier de la mer. Avec lui, on parlera de plongée un peu spéciale, puisque quand il enfile la bouteille, c'est pour aller replanter du corail. Sa mission de vie est claire, mettre en lumière les coraux, sensibiliser sur leur conservation et agir pour les protéger. Le déclic qu'il a eu et son parcours pour accomplir cette mission est fascinant. J'espère que vous aussi, vous serez inspiré par les actions mises en place par Constant et qu'il vous donnera envie de devenir un jardinier de la mer. Bonne écoute et n'hésitez pas à liker et partager ce podcast autour de vous.
Salut Constant, comment vas-tu ?
Hello Audrey, ça va super, et toi ?
Sous le soleil parisien.
Ouais, ça change un peu de Marseille pour le week-end à Paris.
Bon, bah, écoute, je te remercie d'avoir répondu présent à mon invitation pour faire un épisode ensemble sur la tête en mer. Avec toi, on va parler de plongée un peu spéciale, puisque quand tu enfiles la bouteille, c'est pour aller replanter des coraux. Alors avant d'aborder ce sujet, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur ton parcours. Donc, oui. Tu es de Strasbourg, tu as fait une école de commerce, tu as travaillé en Suisse dans un grand groupe. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on se retrouve à parler de coraux ensemble ?
Bah déjà merci de me donner l'opportunité d'en parler. On va pouvoir l'aborder un peu plus dans le détail, mais c'est un sujet qui est fascinant et qui requiert que tout le monde se penche un peu dessus. Ouais, moi du coup je suis pas quelqu'un qui est né proche de la mer ou sur une île. Je suis né à Strasbourg. À la base, j'étais pas forcément voué à passer mon quotidien à m'occuper des coraux et à essayer de sensibiliser les gens sur la cause du corail. Ce qui m'a donné envie de faire ça, en fait, c'était à cette époque-là. De base, j'étais toujours proche de la nature, mais on va dire plutôt de la montagne que de la mer. C'est venu plus avec le temps et derrière, j'ai plus fait aussi du sport en mer, océan. J'ai toujours été assez proche de ces différents éléments. Et de par ma famille aussi, on est un peu proche de la nature puisque mes grands-parents sont agriculteurs. Et donc voilà, j'avais ça en moi, on va dire, de par mes études et après mon travail en Suisse. C'était pas forcément lié. Et bah forcément, au bout de quelques années, ça m'a dérangé, surtout que je créais des produits, je créais des parfums. Et dans ce type de produit, j'ai essayé de commencer à insuffler des notions de développement durable, de recyclage, d'économie circulaire au niveau de ce qu'on faisait à l'époque. Et ça n'a pas du tout été pris en compte. Et à ces moments-là, ça m'a un peu énervé et détaché de ce que je faisais. Et c'est au même moment, du coup, où, avec ma compagne, on s'est dit, bah, écoute, on part en vacances de 3 semaines, on fait une pause, on réfléchit. Et donc, on est parti à Bali. Et à Bali, j'y étais allé auparavant avec mes parents. Ma mère est guide de base, donc on a pu pas mal voyager dans différents endroits. Et donc, je voulais l'emmener à Bali, à Ahmed, qui est un spot assez incroyable pour les fonds marins. Il y a des épaves, il y a plein de choses à voir. Et donc, on est allé au même endroit. J'étais assez excité de lui montrer cet endroit parce que ça m'avait marqué auparavant quand j'étais plus jeune, quand j'y étais allé. Et en faisant juste du snorkeling au même endroit, il n'y avait pas grand-chose à voir. Il n'y avait plus beaucoup de tortues, il y avait peu de poissons. Et c'était directement lié au fait que les coraux avaient quasiment totalement disparu sur ces endroits-là. Et donc, c'est ça qui m'a fait un choc, c'est ça qui m'a marqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» c'est pas possible en fait de voir tout ça disparaître. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut les replanter? Est-ce qu'on peut s'en occuper? Qu'est-ce que c'est un corail? Enfin, toutes ces questions-là qui sont arrivées, puisque de base je suis pas biologiste quoi. Donc j'ai passé à peu près un an et demi à rencontrer, appeler, poser des questions à plein de scientifiques, d'associations, d'ONG qui travaillaient sur le sujet. Il y avait plein de petits projets qui commençaient à se mettre en place un peu partout dans le monde. Ça, c'était il y a à peu près 3 ans, du coup. Et c'est ça qui m'a fait plonger dedans. Ça m'a vraiment pris au trip. Ça m'a fasciné. C'est vraiment incroyable comme sujet quand on commence à s'y intéresser. Et je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai tout arrêté et j'ai décidé de lancer du coup Récif.
Et tu me disais que tu avais essayé, que tu voulais t'engager dans un projet environnemental suite à ce voyage et à toutes ces découvertes. Tu me disais que tu t'avais essayé aussi d'insuffler un petit peu des changements dans le groupe pour lequel tu travaillais, mais que tes propositions n'étaient pas forcément écoutées. Donc j'imagine que c'est peut-être ça aussi qui a déclenché ton départ vers un nouveau
projet. Ouais. Bah ouais, c'était ça en fait. Finalement, ça m'a permis de faire mon choix, de faire ma décision et de quitter tout ça. Donc c'était vraiment bien que ça se soit passé comme ça au final. Mais en effet, c'était pas encore les priorités. Ça dépend de chaque entreprise, mais c'est plus des priorités de profit, de vente, de volume et tout. Et finalement, c'était pas forcément très smart à l'époque, je dirais, parce que aussi, c'était le moment où beaucoup d'entreprises commençaient justement à se dire, en fait, il faut qu'on ait une action aussi environnementale, il faut qu'on soit vrai et transparent envers différents sujets pour que aussi nos clients, nos collaborateurs, nos employés, tout le monde s'y retrouve et que plutôt que juste vendre des produits, on puisse aussi avoir une mission et tout. Et en fait, le fait de réfléchir à tout ça, de ne pas le retrouver au quotidien et le fait d'avoir vraiment cette envie de développer un projet, je me suis dit, je vais le faire moi-même. À cette époque-là, je savais créer des produits, créer une communauté, essayer de rassembler les gens autour d'un sujet commun. Et je me suis dit, en fait, il faut mettre plus de lumière sur les coraux. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas une marque? Donc, j'ai créé une marque qui s'appelle Récif. Pourquoi je ne créerais pas une marque qui, justement, permet de mettre en lumière ce sujet? Et donc, toute l'idée et tout ce que j'ai travaillé pendant ces moments-là, c'était de faire un modèle qui permette de replanter du corail. Donc, en fait, pour chaque article qu'on vend chez Récif, on replante un corail. Donc, les gens qui s'engagent au travers de l'achat chez nous adoptent un corail que derrière, on plante, nous, avec des associations avec qui on est partenaire. Et donc, toute l'idée, c'était de créer ce modèle-là, d'engager les gens différemment. Donc, dans le fait de passer par l'achat, c'est des choses qu'ils font au quotidien et là, ils peuvent le faire d'une manière plus responsable et plus engagée. Ça nous permet, nous aussi, de sensibiliser, puisque quand les gens adoptent un corail, derrière, on envoie un certificat, une photo, on explique tout ce qu'on fait, on explique derrière le suivi, le monitoring et toutes les différentes étapes de plantation et de suivi. Donc, ça permet de sensibiliser les gens directement. Et aussi au niveau des articles, pour en parler très rapidement, tout est recyclé, tout est fait en France et au Portugal. Et notamment, on a des articles qui sont faits avec du plastique qui est collecté en mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Donc, ça permettait aussi de mon côté de me dire, je vais vendre des articles, des produits, mais ça permet aussi de recycler, ça permet d'avoir un impact limité aussi au niveau de la production. Et donc, de boucler un peu la boucle. Donc, c'était ça le modèle de base. Et puis là, donc, ça fait un an que le projet est lancé. Et aujourd'hui, on continue donc de garder la boutique responsable Récif. Donc, pensez-y pour Noël aussi, pour les gens qui vont écouter. Ça nous aide. Mais on va aussi proposer directement l'adoption de coraux sans forcément passer par les articles. Et on propose aussi maintenant aux entreprises ou aux collectivités territoriale de s'engager avec nous et de gérer de A à Z donc des projets de restauration de coraux, puisqu'en fait on l'a fait deux fois cette année sur deux projets et c'est vraiment ce qui nous passionne chez Récif. Donc on est devenu une entreprise sociale et solidaire, on est devenu une entreprise de services environnementaux en plus de la marque et donc on peut maintenant proposer aux entreprises de gérer pour elles des projets de plantation et des projets de sensibilisation en interne chez elles. Donc, voilà à peu près. On en est aujourd'hui.
Et Récif, on est d'accord, c'est une marque de vêtements, principalement.
Vêtements et accessoires. On fait des accessoires, on fait des sacs à dos un peu techniques, on fait des bracelets qui sont faits à Marseille, recyclés aussi, et qui sont faits, tout est fait localement. Et ensuite, derrière aussi, des t-shirts et des sweatshirts, en effet. Shorts de bain aussi.
Tout ton projet a été pensé pour être éco-responsable et en fait pour avoir une mission. Et je voulais revenir justement sur le projet maintenant un petit peu nouveau sur lequel tu travailles et qui a plus d'envergure. En tout cas, tu me disais quand tu as lancé Récif, c'était aussi dans l'intérêt de servir cette mission que tu t'étais mise d'avoir un impact sur les coraux. On va y revenir tout à l'heure. Mais tu m'as dit en fait que tu t'étais rendu compte que il fallait aller vite, il fallait avoir des actions de grande ampleur pour pour pouvoir vraiment en fait, sauver la situation. Et du coup, donc, tu t'es lancé non seulement dans cette marque de vêtements, mais aussi maintenant sur la sensibilisation d'entreprise. C'était des questions que j'avais plus pour la fin, mais on va y passer maintenant. Je voulais te demander, donc tu me disais que en fait, tu travailles avec les départements RSE, généralement des entreprises. Comment elles reçoivent tout ça, les entreprises ? Est-ce qu'elles y sont sensibles ? Est-ce qu'elles y sont sincèrement sensibles ?
Alors, ouais, donc en fait, pour l'instant, c'est le démarrage de ça. Donc, c'est un programme qu'on a créé cet été. Donc, ça fait 2-3 mois qu'on est en contact avec différentes entreprises pour leur proposer, pour leur expliquer ce qu'on fait et surtout pour leur partager notre objectif et voir si elles veulent faire partie de notre mission aussi sous les conditions qu'on impose plus ou moins, quoi, puisque il faut que tout ça soit bien cadré toujours scientifiquement et que ça fasse du sens. Nous, notre idée de base, c'était de décupler notre impact, en fait, puisque là, avec Récif, donc sur un an, on a planté à peu près 1200 coraux, ce qui n'est pas rien, hein, pour un démarrage, surtout vu la période et tout ce qu'on a dû vivre pour lancer notre activité. C'était vraiment, c'était un peu plus compliqué que prévu. Mais donc, c'est 1100 personnes qui nous ont suivis. Donc, c'est nos premiers clients qui ont adopté. Et nous, on a fait deux projets sur ça où on a planté 500 et 600 coraux. Un premier aux Maldives et un deuxième à Toulon, donc en France, en Méditerranée, sur des coraux d'eau froide. L'idée de partager ça avec les entreprises ou avec les territoires, hein, ça peut aussi être avec des collectivités publiques, c'est justement de pouvoir décupler notre impact, c'est d'aller chercher des plus gros budgets, mais surtout d'aller plus vite, puisque les coraux, en fait, ce qui est aussi intéressant, et c'est pour ça que c'est important que tout le monde s'y intéresse et s'y mette, c'est qu'en fait, on en a perdu la moitié là déjà, un peu plus de la moitié, et surtout à peu près 90%, donc voire la totalité des coraux sont menacés d'ici à 2040-2050. Donc c'est assez imminent, et donc il faut que tout le monde s'y mette rapidement. Et donc pour ça, pour gérer plus de projets et les faire, il faut forcément plus d'argent aussi. Que ce soit de l'argent public ou privé, au final, nous, ce qu'on veut, c'est... on a en fait 7 zones qu'on a identifiées dans le monde où on a des partenaires opérationnels locaux qui attendent, qui ont des zones, qui ont des zones à réparer, à régénérer. Mais ce qui manque, c'est souvent les financements et le temps et les gens pour le faire. Mais nous, on est là pour ça. Mais par contre, maintenant, il faut les financements. Et du coup, l'idée, c'est d'aller voir ces entreprises, de leur proposer une action de terrain, de plantation, en effet, mais d'obliger à chaque fois de coupler ça avec une action de sensibilisation en interne, chez eux, des employés, des collaborateurs ou des clients. On peut toujours se poser la question, on en avait discuté un peu, hein, de si l'entreprise est sincère ou pas dans sa démarche. Ça, c'est à nous de le sonder aussi quand on commence à discuter avec elles. Il y a aussi des entreprises là que je rencontre, même des groupes où je suis assez étonné des actions qu'ils mènent déjà. Bien sûr. Sur le corail, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le corail, on ne vend pas de la compensation carbone comme pour les arbres. Donc, les gens qui s'engagent avec nous vont plutôt avoir une action sur la biodiversité, sur l'océan en général et sur la biodiversité. Ils ne vont pas pouvoir simplement faire de la compensation et donc faire un projet environnemental, plus pour des raisons de neutralité carbone, ce genre de choses. Ils vont vraiment s'engager avec nous sur un projet qui est important pour la biodiversité. Donc, on a certaines conditions, si on veut, pour s'assurer que justement que l'engagement est là. Et aussi, on essaie de ne pas faire des actions coup de poing. Donc, on s'engage sur 2-3 ans, sur du long terme, puisque l'action de... On va en parler plus en détail, hein, ça va être plus intéressant de parler de ça. Mais au niveau de la plantation, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs années. Il y a tout un suivi, il y a une mise en pépinière, puis il y a une mise en place sur le récif réel. Donc, il y a du récif artificiel, puis... du vrai récif, donc il y a plusieurs étapes qui durent sur 1, 2, 3 ans, donc on essaie d'engager les gens là-dessus.
Super, ravie d'entendre que voilà, maintenant toi avec ta connaissance aussi et ta motivation genre énorme, tu vas voir les entreprises, ouais, pour leur parler de tout ça, et si en plus c'est bien aussi, c'est une super nouvelle. Tu me disais que ça coûtait beaucoup plus cher de replanter un corail par rapport à un arbre, est-ce que tu sais pourquoi ?
Ouais, c'est sûr que les budgets ne sont pas du tout les mêmes. Une des premières raisons, c'est l'endroit où on le fait, hein, parce que c'est sûr qu'il y a des entreprises qui plantent des arbres, mais qui les plantent au sud de Madagascar, par exemple, ou en Afrique, et donc ça coûte entre 10 et 20 centimes, là où un corail va coûter entre 20 et 30 euros, en règle générale. C'est une moyenne, hein, qui est établie et ça dépend à chaque fois des coûts des structures qui font les activités de plantation. Pour planter un corail, c'est beaucoup plus fragile. Il faut être formé. Souvent, il faut plonger. Alors, pas toujours. Hein, on va parler des différentes techniques et tout, mais il faut pas toujours plonger, mais c'est mieux de savoir le faire. Et donc, la plongée, ben, on le connaît surtout dans le cadre de ton podcast. Ben, ça nécessite un bateau. Il faut payer l'essence. Il faut emmener des gens sur un bateau. Il faut une personne pour sortir pendant une journée. Il faut plonger. Ça coûte aussi de l'argent. Et donc, il y a toute une technique aussi selon les techniques. Il y a deux grandes techniques, on va dire deux ou trois dans le monde pour replanter du corail. La plus connue, c'est les dômes métalliques qui sont construits hors de l'eau et qui sont ensuite coulés dans l'eau, sur lesquels on va attacher des petites boutures de fragments de coraux. Construire ces dômes métalliques, ça requiert aussi un certain budget. Nous, sur les techniques qu'on utilise avec ces dômes, on injecte aussi un courant électrique qui permet justement d'améliorer la croissance des coraux, d'avoir un meilleur taux de survie aussi quand on fait les actions de plantation. Tout ça coûte de l'argent. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. L'idée, c'est de le faire comprendre aux gens, mais c'est assez logique, quoi. C'est sûr que c'est plus simple de creuser un trou et d'y planter soit une graine, soit un tout petit arbre, que vraiment de faire toute une expédition et d'aller planter du corail. Mais pour moi, ça ne doit pas être une raison, l'argent. Là, ce qu'on essaie de créer aussi avec Récif, c'est un modèle économique qui est viable. C'est aussi une des raisons, hein, pour lesquelles on va chercher de l'argent chez les entreprises. J'ai été en association auparavant. On va sûrement créer une association aussi avec Récif à Marseille. Mais l'association, parfois, on a des aides une année, l'année d'après, on n'en a plus. Et du coup, il y a des années, on peut faire plein d'actions, les années qui suivent, beaucoup moins. Et donc là, on essaie justement d'aller faire comprendre que c'est tellement important que ça peut faire vivre une entreprise et on peut vivre du fait d'aller restaurer des coraux et faire de plus en plus de projets. Mais c'est vrai que du coup, ça coûte quand même de l'argent de planter un corail.
Bien sûr, oui, je comprends. Merci pour toutes ces explications qui nous, qui nous font comprendre pourquoi, en effet, on passe de 20 centimes pour un arbre à 20 à 30 euros pour un corail. La différence est assez énorme. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur en fait, l'origine du souci.
Ouais.
Moi, j'ai vu pour la première fois les coraux blanchis à Koh Tao, en Thaïlande. Et pour petite anecdote, je ne les ai pas vus le jour de mes plongées. En fait, bon, c'était mes premières plongées, donc j'étais tellement ébahie, heureuse, excitée de mettre la tête sous l'eau pour la première fois, découvrir ce nouveau monde sous-marin qui s'ouvrait à moi. Enfin, je passe les détails, mais en tout cas, en dessous de moi, il y avait plein de coraux morts et je ne les ai pas vus. Et c'est en regardant, donc on m'avait pris en photo, et c'est quelques mois après, en regardant les photos, je me suis dit, purée, mais en fait, en dessous moi, c'était un cimetière à corail. Donc, je parle de coraux morts, de cimetière, c'est pas tout à fait exact. En fait, ces coraux sont blanchis par un stress. J'ai été du coup moins sensibilisée à tout ça un petit peu plus tard par des documentaires. Donc, il y a Chasing Coral par exemple sur Netflix qui explique très bien tout ça. Donc, les coraux sont quand même un être vivant ultra complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce phénomène tout en restant simple, en vulgarisant peut-être un petit peu ce qui se passe pour eux, quoi?
Yes, avec plaisir. Ben, en fait, le corail, c'est un animal, premièrement. C'est des petits animaux qui sont appelés les polypes. En effet, il crée un écosystème qui est très complexe, mais qu'on peut comprendre, mais qui est du coup aussi un des plus riches au monde. En fait, c'est des petits polypes, du coup, c'est comme des formes de mini-anémones de mer qui constituent des colonies. Et en fait, ils fabriquent, eux, un squelette qui est commun et qui est calcaire, et qui est souvent les bases fondatrices du récif corallien. Donc c'est un petit animal qui vit en symbiose avec une algue à l'intérieur, qui s'appelle la zooxanthelle, qui elle fait une photosynthèse. Donc c'est pour ça que souvent les coraux sont sont en surface, enfin juste sous la surface, puisqu'ils captent les rayons du soleil. Ce n'est pas le cas de tous les coraux. Cette algue, en faisant cette photosynthèse, elle va permettre au corail de se nourrir, de grandir et de faire grandir ce squelette calcaire. Tu parlais du... Je vais revenir un peu sur les détails des coraux, mais tu parlais du blanchiment. Et en effet, ça, c'est le problème mondial des coraux et c'est ce qui fait qu'on est en train de perdre beaucoup de coraux. En fait, c'est du stress qui arrive pour différentes raisons et la plus grande raison, c'est le réchauffement climatique qui, en fait, réchauffe l'océan. Et du coup, l'océan s'acidifie puisqu'il capte le CO2, c'est lui qui capte le carbone et la pollution. Et en se réchauffant, du coup, cette algue, l'azoxanthelle, qui vit dans le polype du corail, elle est plus à l'aise, elle peut plus vivre dedans et donc elle va quitter le corail pour aller chercher un autre organisme pour se développer. Et en quittant ce corail, le corail ne peut plus se nourrir, donc il meurt. Et en mourant, l'animal disparaît, il meurt, et donc on retrouve plus que ce squelette calcaire. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit que le corail blanchit, puisqu'on voit plus que le calcaire du corail. Après, il y a vraiment plein d'espèces différentes de coraux. C'est assez fascinant. Il y a des coraux solitaires, des coraux qui forment les colonies, qui sont des constructeurs de récifs, des coraux mous. Il y a vraiment plein de types. Il y en a qui forment du coup ce squelette calcaire. Il y a des coraux aussi sans squelette calcaire, c'est ce qu'on appelle les coraux mous, qui grandissent un peu plus vite. Et donc, il y a les coraux de surface, ceux qu'on connaît le plus et qu'on retrouve souvent dans les eaux chaudes tropicales. Mais il y a aussi certains coraux qui vivent plus profonds et parfois dans les eaux froides. Et notamment, c'est ceux sur lesquels on travaille en Méditerranée. En Méditerranée, il y a beaucoup plus d'espèces de coraux d'eau froide. Ensemble, ils forment un écosystème. Donc, qui est composé de différents végétaux, différents animaux. C'est un des écosystèmes qui est le plus productif au monde. Souvent, on dit que les récifs coralliens, ce sont les forêts tropicales des océans. Donc, l'océan, c'est le poumon de notre planète. Donc, c'est la deuxième forêt tropicale sur notre planète, c'est les récifs coralliens. On dit ça notamment parce qu'ils abritent un quart des espèces marines. Donc, c'est énorme. Donc, un quart de la biodiversité marine dépend directement des coraux. Donc, soit il grandit, soit c'est des espèces qui chassent, qui pondent leurs œufs, qui s'y reproduisent, qui s'y cachent des prédateurs. Donc, c'est vraiment un écosystème qui est ultra riche. On dit qu'un kilomètre de récif corallien en biodiversité, c'est l'équivalent de l'ensemble des côtes littorales de France métropolitaine. Donc, c'est assez dingue. Juste un kilomètre de récif. Donc, c'est pour ça que nous aussi, ce qu'on veut, c'est construire des kilomètres de récifs et vraiment décupler cet impact et construire massivement ces récifs de coraux. Ça fait aussi partie des écosystèmes côtiers. Donc, ça a d'autres utilités qui sont liées directement aux communautés locales qui vivent autour des coraux. Ça protège les îles aussi des catastrophes, de l'érosion. Ça casse l'énergie des vagues. Donc, c'est ce qui permet de ralentir l'érosion des îles, mais aussi de créer derrière les barrières de corail des zones calmes qui, elles, sont propices au développement, par exemple, des mangroves. Et les coraux, les mangroves et les herbiers marins, les trois ensemble, c'est les écosystèmes les plus productifs au monde et c'est ceux qui ont un potentiel de séquestration carbone aussi supérieur à celui des forêts terrestres. Donc, c'est franchement vraiment fascinant, c'est indispensable pour de multiples raisons. Déjà, un quart de la biodiversité marine, on a tout compris. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Et nous, ce qu'on essaie de faire, et on n'est vraiment pas les seuls, en France, il y a différentes assos aussi qui sont sur le sujet. Nous, on travaille avec Ocean Quest aussi à Toulon. Il y a aussi Coral Guardian à Paris qui a différents projets. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Il faut que ça se développe, que ça se décuple. Il y a plein de stratégies et de techniques différentes et de zones différentes où il faut le faire. Mais nous, ce qu'on essaye de pousser justement, c'est d'avoir une communication positive, de montrer qu'il y a des solutions. On le sait maintenant, il y a plusieurs solutions qui ont été testées sur les 10 dernières années, des solutions qui marchent, notamment une que nous, on a développée conjointement avec une ONG suisse, du coup, un ami à moi que j'ai rencontré là-bas, qui utilise l'accrétion minérale. Donc, c'est une technologie où on injecte de l'électricité dans ces dômes métalliques sur lesquels on plante les boutures de coraux. En faisant cela, ce qu'on permet de faire, du coup, c'est d'augmenter le taux de survie des fragments qu'on a placé sur ces structures. Donc, on a un taux de survie de 90%. Donc, notre action, elle fonctionne. Et en plus, on a 90% de taux de survie. Donc, ça marche. les coraux ont une belle croissance et on arrive à avoir une croissance de 6-7 cm par an plutôt que 1 cm par an, parce que de base, la croissance du corail elle est très très lente. Ça permet de faire en sorte qu'il soit plus résilient, qu'il résiste aux dangers et surtout de préparer ces boutures de coraux à être derrière réimplantées sur le vrai récif pour qu'ils puissent pousser et recréer du coup un récif naturel. Donc ça, c'est ce qu'on veut dire par là, c'est que en fait les techniques sont là. C'est juste que maintenant il faut que toutes les têtes s'y mettent et que toute l'attention soit portée dessus pour que les projets se démultiplient, se développent et qu'on puisse planter massivement partout où il y a besoin de le faire, quoi.
Donc en fait concrètement, quand tu replantes un corail, tu le rends en fait plus résistant à l'environnement, au nouvel environnement en tout cas qu'on notifie quoi maintenant.
En fait, tu as des zones, les zones par exemple aux Maldives, là on a fait notre action et on en a une deuxième en Indonésie aussi. C'est des zones qui ont été ravagées, donc des zones où il y a eu du blanchiment, comme dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a eu des pics de chaleur ou différentes actions qui ont fait que les coraux ont été ravagés. Ça peut être aussi lié au tourisme, aux ancres de bateaux, comme on a pu le voir en Thaïlande aussi et tout. Mais du coup, dans ces zones-là, il y a des espèces qui ont réussi quand même à subsister de coraux. Généralement, c'est celle-ci qu'on va collecter. On collecte jamais un corail qui est vivant, hein, qui est accroché en bonne santé. Mais ça, c'est vraiment des zones où, en fait, tous les jours, il y a des coraux qui se cassent, qui se détachent. Ça peut être lié à la houle, ça peut être lié à l'activité humaine, ça peut être lié à la pêche, ça peut être lié au tourisme. Mais parfois, c'est simplement des vagues, hein, qui cassent les boutures de coraux. Si on le ramasse immédiatement dans les jours qui suivent, on peut récupérer le corail si on le collecte à ce moment-là. Et le corail, pour repousser, il faut juste qu'il soit fixé à une structure qui est stable, solide. Donc, nous, on les colle sur ces dômes métalliques. À Toulon, on les colle avec une colle biodégradable directement sur la roche aussi. Il y a des techniques où c'est collé sur des cordes, par exemple, où c'est juste attaché sur des cordes. Il faut simplement que ce soit stable et que ça puisse repousser. En tout cas, si c'est dans le fond de la mer et que ça bouge avec le courant, ça ne peut pas repartir et ça va mourir. Ça, c'est la première étape, donc c'est la collecte. Immédiatement après cette collecte, il faut du coup fixer. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est la pépinière. Donc là, c'est vraiment prendre les boutures. On prend des grandes tables de 1,50 m sur 1,50 m. On arrive à mettre à peu près 100 boutures par table. Et donc, la mise en pépinière, ça va durer entre 6 mois et 1 an, où du coup, les coraux vont commencer à repousser, à reprendre des forces. Ils sont très fragiles dans ce moment-là. Donc, il faut faire du monitoring, il faut être présent sur place pour chaque semaine aller vérifier les différentes petites boutures, est-ce que ça prend ou pas. Il y a souvent des micro-algues aussi qui se mettent sur les fragments de coraux qu'il faut enlever à la brosse à dents carrément, donc ça demande beaucoup de travail, d'attention. En effet, avec la technique dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec l'accrétion minérale et l'électricité, ça permet d'avoir un meilleur taux de survie et surtout, ça permet de créer un champ magnétique au-dessus de ces dômes qui va attirer plus de nutriments vers les coraux et du coup, ils vont manger plus vite et donc ils vont croître plus vite et donc ils vont être plus vite assez résilients au danger. Mais il peut arriver qu'on sache qu'il y a un événement de chaleur qui va arriver dans une semaine et du coup, on doit les couvrir avec des bâches noires ou avec des tissus noirs pour éviter qu'ils prennent un gros coup de pic de chaleur et qu'ils meurent tous aussi. Donc, il y a vraiment une grosse attention qui est faite entre 3, 6 mois et 1 an selon les nurseries. Avec cette technologie, on réduit cette durée, mais ensuite, une fois que ça a été fait, on va redétacher donc, ces coraux qui ont poussé et on va les implanter, donc les déplacer souvent en bateau, dans des caisses, assez rapidement, justement pour pas trop les stresser, pour pas les avoir trop longtemps non plus hors de l'eau, dans les bacs et pouvoir les replanter. Et ensuite, on va les réimplanter sur le vrai récif. Donc, on retourne dans des zones sinistrées et on va réimplanter directement avec différents types de ciment ou de colle directement sur le récif. Il y a différentes conditions pour que ça fonctionne, donc c'est celle qu'on vient d'évoquer. Et notamment, une dernière aussi, c'est de respecter la diversité des espèces. Donc, il ne faut pas prendre une seule espèce et la planter massivement dans un endroit et la réintroduire seule, mais essayer au maximum de toujours collecter dans les zones où on va derrière replanter, puisque c'est des zones où le corail a évolué, donc il va s'y sentir bien. Mais surtout garder une diversité d'espèces quand on collecte et quand on replante, puisque le corail, c'est ce dont il a besoin. C'est des milliers d'espèces différentes qui vivent ensemble et qui grandissent ensemble avec différents types de coraux, constructeurs, les coraux mous, et différents types d'organismes qui vont y vivre. Donc, ouais, voilà à peu près les conditions pour que ça fonctionne, pour que la recette prenne. Mais ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est assez fascinant. Quand on en plante, j'encourage tout le monde, tous les plongeurs qui nous écoutent, puisqu'en plus, là, on a vraiment une audience qui est dans la plongée ou dans l'apnée, ou même juste le snorkeling, peu importe. Mais je vous encourage vraiment sur toutes vos prochaines sorties de vous rapprocher de projets locaux qui font ça. Ça donne une toute autre dimension justement à la plongée, puisqu'on a une action, on travaille un peu, mais en même temps on est super excité d'avoir une action positive sur l'environnement et de redonner des forces à la nature, en plus d'en profiter, quoi, et de voir tout ce qui s'y passe et toute la biodiversité qui revient. Et justement, quand on le fait, franchement, au bout de déjà une semaine, quand tu fais une table de bouture dans une pépinière, ou même quand tu réimplantes un récif, il y a immédiatement le retour des espèces. Il y a immédiatement des poissons qui reviennent, de la biodiversité qui vient se fixer sur les organismes, sur les tables, sur les dômes. Au bout d'un mois, 2 mois ou 6 mois, il y a des requins qui reviennent chasser dans la zone. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un retour des espèces immédiat, donc ça fonctionne, quoi.
Incroyable, ouais. Bah, tu vois, moi, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ça de mes propres yeux. Toi, tu t'es formée à Toulon auprès de Sandrine Thévaux d'Ocean Quest.
Ouais, exactement.
Alors, je m'étais renseignée il y a quelques temps. Alors, il y a un podcast sur elle, justement, avec Parole de plongeur. Un autre podcast sur la plongée que je vous invite vraiment à écouter, où Christelle interview Sandrine Sandrine partage toute une expertise sur les coraux, sur comment elle replante tout ça. Et mais bon, déjà avec toi, je crois qu'on a un super aperçu. Et je m'étais renseignée il y a quelques temps, et en fait, c'est un centre donc, qui propose des plongées, pas d'exploration, ou en tout cas pas seulement, mais justement des plongées pour aller voir les tables, en savoir plus sur les coraux. Quand tu nous parles de tout ça, en fait, je me dis, mais en fait, là, on parle de jardinage, quoi, finalement. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir jardinier de la mer, ou est-ce qu'on peut tous planter du corail?
Alors, il y a une formation, exactement, et j'ai volontairement... j'ai abordé un peu tout le long, et en effet, on travaille au quotidien avec Sandrine, on s'est appelé juste avant ce podcast, d'ailleurs. Je suis volontairement pas moins rentré dans les détails de Toulon, parce que je t'encourage fortement à écrire à Sandrine et à la faire venir aussi. Et elle a énormément de choses à raconter aussi, parce que ce qu'elle a créé, c'est quand même assez fou aussi. Mais ce qui est déjà assez unique, c'est le fait de le faire en Méditerranée, parce que c'est beaucoup plus complexe de le faire dans la mer Méditerranée. Il y a moins d'espèces, et surtout, c'est pas les mêmes techniques ou les mêmes types de coraux que dans les tropiques. Elle a réussi à développer cette technique, hein, avec Ocean Quest, qui est une ONG globale, mais Sandrine, elle a développé Ocean Quest France. Et à Toulon, ils ont testé du coup cette technique de la colle biodégradable sur une espèce de Méditerranée qui s'appelle le Cladocora. Et ça fonctionne, quoi. Donc, c'est assez dingue. J'invite tout le monde à se rapprocher du coup de elle ou de l'asso, justement, pour se former. Alors moi plus personnellement, j'avais un peu plongé juste avant, mais vraiment juste en baptême. En revanche, je m'étais formé aussi, puisque avant le premier projet avec Sandrine, on en a fait un autre aux Maldives, où on a planté déjà 500 coraux, mais là sur des coraux tropicaux, donc la technique dont je parlais tout à l'heure. Et là, avec Sandrine, ce qui est top à Toulon, c'est qu'on peut venir se former, devenir en effet un jardinier de la mer, hein, c'est le nom de la formation. Donc tu reçois un diplôme et tu peux plonger et planter du coup avec cette technique avec Ocean Quest, soit à Toulon, soit sur les autres sites. En janvier, par exemple, donc nous, Récif, on part avec Ocean Quest en Guadeloupe pour planter plus de 1500 coraux, donc avec un super objectif. Et justement, l'idée des formations, c'était de proposer à des gens de venir en plongée à Toulon, se former pour derrière accompagner la mission en Guadeloupe, et donc sur place ne pas perdre de temps entre guillemets pour former, mais vraiment planter, quoi. Être dans une activité qui est plus de volume, on y va, on plante, on veut avoir du rendement, et du coup les gens sont déjà formés. C'est quelque chose qui est hyper accessible aux plongeurs, ça c'est certain. C'est d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça vraiment super agréable, ça m'a permis d'accélérer ma façon de plonger, tu vois, mon aisance, on va dire, sous l'eau, puisqu'en fait, tu travailles un peu sous l'eau, hein, tu collectes des substrats, c'est la première étape, c'est aller collecter des substrats, des roches sur lesquelles on va planter le corail. Tu les collectes, il faut les amener dans une caisse. La caisse, elle est remontée sur le bateau. Ensuite, on plante sur le bateau dans des bacs d'eau, où du coup, on a d'un côté les substrats, de l'autre côté, le corail qui a été collecté, qui est abîmé. On fait les petites boutures, on les colle directement. On les recoule dans l'eau et ensuite, il faut de nouveau aussi transporter sous l'eau donc le substrat avec la petite bouture de corail toute fragile qui vient d'être collée et aller l'introduire et la déposer dans une nursery. Donc, il faut être très calme, il faut porter du poids sous l'eau aussi. Donc, y a forcément des gens qui ont déjà fait ça, hein, mais quand on est dans ses premières plongées, c'est à chaque fois des premières fois qui sont vraiment top. Mais je trouve aussi que au-delà de l'effet de la plongée où vraiment tu es dans un état de contemplation de l'univers sous l'eau, limite un peu méditatif, où tu découvres la biodiversité. Moi, je pourrais passer des heures allongées sous l'eau à juste regarder ce qui se passe. Là, tu as une action qui est encore différente. En fait, tu travailles un peu sous l'eau et tu oublies vraiment tout ce qui est lié à ta respiration, ta flottabilité, tout ça, parce que vraiment, tu le fais parce que tu as une mission, tu as un objectif. Tu as passé du temps à planter ton corail, tu ne veux pas le laisser tomber dans l'eau. C'est vraiment... Franchement, c'est incroyable. Toutes les sessions de formation qui sont faites avec elle, les gens en général en ressortent avec une autre vision encore de la plongée. Et définitivement, ils en parlent autour d'eux, ils essaient de motiver les gens à le faire. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi quand on communique chez Récif, c'est de dire c'est accessible, faites-le dans tous vos voyages. Essayez d'impliquer les gens et de les pousser à le faire aussi. Moi, ma compagne, par exemple, elle avait fait juste un baptême, maintenant, elle le fait avec moi. Ma mère est venue sur le bateau, elle plonge pas, mais elle a pu planter sur le bateau, du coup, sa petite bouture de corail, et nous, on est allé la remettre à l'eau. Donc, c'est assez ouvert, au final. C'est assez ouvert, et tout le monde peut s'y mettre. Il n'y a pas d'excuses.
Génial. Bah, écoute, ça me donne énormément envie de faire ça, et ouais, de vivre ce genre de plongée et d'essayer de devenir jardinier de la mer, quoi. C'est un peu...
Faut que tu viennes à Toulon.
Exactement, ouais, bah, avec grand plaisir pour venir à Toulon à la rencontre de Sandrine et puis de son association. Écoute, Constant, je te remercie beaucoup pour cette interview super, super enrichissant. J'ai appris plein de choses.
Avec grand plaisir.
Plein de choses grâce à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour tes projets futurs. Bravo pour tout l'engagement et la motivation que tu as à porter ces projets. On a besoin de gens comme toi, je pense. Donc, félicitations.
Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion aussi d'en parler. J'invite les gens qui le souhaitent aussi à nous suivre. Hein. On montre un peu tout ce dont on a parlé sur nos réseaux ou par email aussi. On envoie un peu les étapes de nos différents projets. On explique un peu notre histoire, donc ça intéresse les gens. Allez suivre Récif, du coup. Et sinon, merci à toi. Je trouve ça top, ton podcast. Et je trouve que c'est bien aussi de pousser le plus de monde possible à mettre la tête sous l'eau et à découvrir tout ça, parce que ça donne envie de forcément aussi de le protéger. Donc merci à toi.
Merci beaucoup.
Et à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt.